France Culture.
Nous allons, concordant par nos gestes à quelques pièces dont nous ne savons ni l'ensemble, ni le dénouement. Mais nous tenons nos rôles avec du phare aux joues et des cœurs en deuil. C'est le principal.
Page arrachée au journal de Mireille Havet. Cortège des morts. Texte choisi et présenté par Béatrice Leca.
Il y a les dîners, les rencontres. Il y a les bulles irisées de la vie mondaine. Jean Cocteau, avec qui Mireille avait ce lit d'amitié. Colette, qui a préfacé « La maison dans l'œil du chat », recueil de nouvelles publiées alors qu'elle n'a pas 18 ans. Nathalie Barnet et ses conquêtes. Il y a ces si nombreux visages de femmes qui passent et dont on peut s'éprendre au moins pour une seconde. Il y a ce grand bruit du monde. Et au-delà, dans le silence et la terre, les premiers morts. Jean Leroy, poète de 20 ans sur le cadavre duquel on retrouvera les derniers poèmes. Et Guillaume de Kostrovitsky, le magicien Apollinaire.
Deuxième épisode.
Paris, mercredi 30 octobre 1918. Vers quelle lutte, quels vêtements, quels regards et quels poèmes marchons-nous si fixement d'un pas ordonné et forcené qui ne recule jamais, qui écrase tout ? Nous sommes des tanks, nous sommes des masses, rien d'autre. Vers quoi dans la nuit de novembre vais-je donc moi-même ? Avec ce ricanement qui découvre et châtie la pauvreté, la vanité des étalages, le luxe décoloré de cette époque où seule une veste de cuir feutrée de fourrure semble utile pour les luttes de l'avenir, pour l'austère orage qui se lève de la paix prochaine. Nous sommes des pionniers. Mais pour Dieu, qu'attendons-nous ? Car il ne suffit pas de détruire, de brûler nos anciennes idoles, si la forme nouvelle ne s'esquisse pas encore. Voici l'Apocalypse. Et la ville disparaît dans la nuit. La belle ville s'enfuit dans la nuit toute plombée des morts qui l'ont faite et tout ahurie de nos exigences. Tous les soirs, donc, je parcours les rues et les boulevards, car je suis triste. Et je cherche en vain quelque chose que j'ignore, mais qui doit m'appeler et me désirer quelque part, et je n'éprouve pas de calme à rester chez moi. Il faut que je sorte, que j'achète, que je parle. À 5 heures, je m'effondre dans un thé quelconque. Que ce soit à la Madeleine ou à l'Ombrelle chinoise ou chez la Tinville, je trouve le même chocolat de guerre fait à l'eau sucrée, les mêmes visages et pas grande chaleur sentimentale. Je ne veux aller ni au Ritz, ni à Mirabeau, ni dans un véritable lieu où s'étale le luxe à moitié mort des beautés d'il y a 20 ans. Je crains les présentations, les rencontres, les désirs nouveaux, et je me confine dans des pâtisseries tristes où je mâche avec le goût du chocolat mes vieilles déceptions et ma nostalgie d'un bonheur véritable. Mardi 12 novembre 1918. L'armistice.
Tu seras mort depuis 1000 ans, un jour entre les jours. Au cœur de l'éternité, tu t'éveilleras. Tu entendras soudain chanter dans ton cerveau cette phrase musicale qui fut pour toi toute la beauté de vivre, tout le plaisir de ta propre jeunesse, cette phrase pleine d'amour, comme un obus de poudre. Tu seras seul dans ta tombe. Tu sauras que tu es mort. Tu auras pendant 1 heure conscience de l'irréparable. Seul. Mort. La musique s'éteindra, et doucement, tu te sentiras retourné au néant. Jean Leroy, Le Cavalier de Frise, 1918.
Entre mes arbres défeuillés, à travers la résille des branches, monte la rumeur, le tohu-bohu de Paris en liesse et délire, que scandent de temps à autre de grosses canonnades rappelant assez mal à propos les plus mauvais jours de la guerre. Dans la rue, ce ne sont que drapeaux offerts au vent léger de novembre et grisonnant sur leurs hampes comme de grandes antennes soyeuses et bruissantes. Toutes les fenêtres sont parées et Paris disparaît sous l'étoffe tricolore. Voici donc, après 4 ans d'attente, de peine, d'illusion, d'ajournement et de terreur, cette paix que j'attendais déjà, confiante et légère, dans le jardin du Colombier, au lendemain de 1914. La voici donc. Depuis hier, 11 heures, on ne tue plus. Le danger, l'inhumain est ôté de vie, et nous nous retrouvons brisés, la fatigue ahurie, avec nos vies individuelles et nos amis tués. Quelle bêtise! L'apothéose arrive trop tard. Les cœurs se sont endurcis dans le mal de l'attente, et nous avons maintenant la routine du malheur, l'abrutissement du sacrifice, et la joie qui nous délie me semble criarde et surfaite. Rien, désormais, n'empêchera le déluge. Et ce n'est point un recommencement qu'apporte cette paix, mais un autre chapitre, et je redoute obscurément d'autres peines et d'autres désordres. Cependant, mon cœur est considérablement allégé. On ne tue plus, c'est à peine croyable. Hélas, les vraies larmes montent et débordent, maintenant que s'affirme l'absence continuelle des morts, que la paix ne nous rendra jamais, dans cette vie où nous les aimions, où leurs visages et leurs actions faisaient la joie de tous les jours. Et je sens d'autant plus le poids, l'étouffement d'un deuil irréparable, puisque la veille de cet armistice, nous perdons Apollinaire, notre ami et notre conducteur. Ma peine est infinie, infinie et sans parole. Je comprends le désastre et j'en suis affligée, meurtrie jusqu'au fond. À force d'être malheureux et séparés violemment, sans retour, de nos compagnons les meilleurs, on arrive à une espèce d'atonie du désespoir, à une acceptation résignée, à un mutisme qui fait d'autant plus mal que l'on voudrait tout dire et réclamer sans fin. Quand l'autre soir, Eschimène vit la chose en ouvrant le journal et vint me le dire avec un visage décomposé, j'ai senti quelque chose se rompre, tomber en moi. Je n'ai pas pu crier. Des larmes épaisses sont montées dans mes yeux, lentement, et derrière le visage de mon pauvre Guillaume, celui plus pâle, plus fin, de Jean Leroy s'est levé, comme un rappel de toutes les peines et de toutes les absences. C'est affreux. Une solitude odieuse, et qui ferait sans doute détester la vie si nous n'étions pas d'éternels espérants, envahit tout, submerge tout. C'est le désert à la place de la forêt promise, à la place du feu de joie, la cendre froide, et une sorte de rage, de quand même entêté et féroce, me remplit le cœur. Comme si je voulais et pouvais lutter avec la grande inconséquence de la mort qui nous ôte tous nos éclaireurs et tous nos amis. Le désir indéracinable de vivre malgré tout dans cette solitude et d'y créer malgré tout un foyer, d'y nouer malgré tout une action, m'emplit comme une revanche, comme une gageure rendue de plus en plus difficile par la mort. Tant pis, je m'attendrai à toutes les morts, à tous les lâchages, car ma réponse et mon défi sont une opiniâtreté sombre et violente comme une vengeance promise et qui sera terrible. Le travail est là. Ah, je ne dis pas que ce soit drôle de travailler, de lire et de gesticuler seul à la table où rayonnèrent tant de figures à jamais ôtées de notre champ visuel. Mais du moins, c'est le seul hommage que nous puissions leur rendre, de tuer le temps avec courage et patience. La guerre est morte, comme nos âmes. Sur l'énorme champ de bataille, nous sommes une poignée qui restons avec un cœur déchiré et qui nous demandons, bien que la vie continue, ce que nous allons mettre dans la paix. Car c'est une angoissante question, maintenant que nous n'attendons plus personne et qu'il faut continuer seul ce qu'on avait entrepris à plusieurs. C'est ainsi qu'hier, voulant voir quand même Paris dans cette bagarre de la joie, je suis sortie au jaune et fauve soleil de 4 heures, descendant de Passy vers l'Étoile. Puis par l'avenue des Champs-Élysées, j'ai gagné la Concorde, puis la rue Royale et les boulevards. Beaux quartiers qui se sont si bien tenus pendant la guerre. Avec une telle solennité de façade. La paix d'hier nous avait transformés en foire, en ripaille du populo. Serré dans la foule, crispant les mâchoires pour retenir mes larmes exaspérées, j'avançais malgré moi au milieu des clameurs et du canon dans ce premier crépuscule de la paix, enfoui avec ma pauvre âme dans la foule houleuse, toute chaude des vivants. Moi dont le cœur ne contenait que des morts. Au milieu de la chaussée, rendant toute circulation impossible, circulaient des monomes d'ouvriers d'usines, d'employés et même de nos grandes écoles. Tout cela braillant infectement quelques Marseillaises de cauchemar, avec d'affreux visages révolutionnaires et des cris furieux répondant aux canons du père Clémenceau. Des camions chargés d'Américains ivres passaient à fond de train et des gamins en grappe s'accrochaient derrière. Je me sentais devenir folle. Rue Royale, devant Maxime, un Américain embrassait de force une femme qui se débattait. Il aurait pu, n'est-ce pas, tout aussi bien être boche. Dans ce cas-là, on l'aurait passé à tabac vivement. Mais à Paris, l'Amérique a tous les droits, même celui du viol. Les passants ricanaient et ne s'en mêlaient pas. Un homme civil m'aborda. J'acceptais qu'il me raccompagne dans cette foule dense et serrée qui empestait. Il était impossible de se défaire d'un raseur. Nous parlâmes. À sa question « Mademoiselle, comment pouvez-vous être seule un si beau jour ?» Je répondis « Que voulez-vous, monsieur ? Mes amis furent tous tués. » Dieu merci. Près de la Madeleine, je rencontrai Tania Stahl et l'individu me quitta. Un regret, j'espère. Pauvre Tania. Elle pensait à la Russie. Je l'entraînai un peu sur les boulevards, mais la foule rendait impossible toute promenade. L'ivresse se répandait de plus en plus au gré d'une vulgarité familière et odieuse. Nous coupâmes par la rue des Capucines. La place Vendôme, sombre et bleue, avec un mince halo de lune levante, nous récompensa par sa belle allure. Sa distinction silencieuse et fermée de cloîtres, de cours intérieures, où Napoléon prend un bain d'étoiles. Le Ritz alors s'illumina d'un rang de perles. Ce fut comme l'éternelle ironie d'un sourire français de bon aloi, malgré l'apacherie ambiante, et nous fûmes réconfortés par cette couronne. Oh, aristocratie ! Voici donc venu le temps de la horde. Est-ce pour le bolchevisme que nos amis sont morts ? Ah, on est tout bouleversé et ahuri ! On aurait presque envie de dire « Rendez-nous notre bonne vieille guerre et notre angoisse et notre routinier malheur. » Car ce réveil de la France glorieuse manque de tenue. Ce soir, la lune est en croissant dans un ciel troublé d'admirables projecteurs qui rappellent la mer et les phares. Oh, nostalgie! La ville est certainement plus éclairée que d'habitude et on perçoit, malgré sa rumeur, les coups sourds des canons en allégresse. Je me sens désaxée, dépaysée et triste jusqu'à la mort. Car on enterre demain mon pauvre Apollinaire. Cependant, la France est sauvée, la guerre est morte, et Paris, debout, lève jusqu'au ciel la flamme de ses projecteurs. J'entends les salves de la fête populaire.
Envoi du deuxième canonnier conducteur, Guillaume de Kostrovitsky, 38e d'artillerie de campagne, 70e batterie.
Nîmes, gare, 7 mars 1914. Ma chère petite Mireille, je tâche de comprendre, mais je suis bouché. Faut qu'on m'explique bien les choses. En tout cas, si vous m'embrassez et pensez que je ne vous rendrai pas de baisers encore plus passionnés, vous vous mettez votre joli doigt dans l'œil. Je vous les rends donc furieusement, en artilleur, comme vous dites si bien. C'est du pétrole flambant, ma vieille, mais il n'y a pas de tâche, tu sais. Mais alors, il faut m'écrire plus souvent. Car si vous vous amusez à me percer le cœur, car c'est bien du mien qu'il s'agit, n'est-ce pas, petite masque, quoi qu'il en soit, admettons que c'est le mien. Sinon, vous jouez à me percer le cœur. Faut penser la blessure. Il y aura du laurier pour votre génie, petite fille, dans ma prochaine lettre. Car le laurier, c'est la fleur de Nîmes. Il n'y a pas de fleurs dans la garrigue. Pas de vraies fleurs, du moins. Mais le laurier y abonde. J'en cueillerai demain pour vous. Je voudrais bien aller colombiner avant de partir. Et colombiner dans le beau pays de Loire. Impossible. Si vous vouliez, remettrions cette colombinaison à après la victoire. Mais si trouvez déjà que c'est long, vous n'avez guère de patience. Ça durera encore longtemps, ma vieille. Et quand vous reverrez, serait grande, grande, avec un corsage rebondi. Donc voilà, suis sage comme une image, et jamais regardé un visage féminin dans les rues de Nîmes. Mon cœur est transpercé comme vous dessinâtes. La flèche a même un fil à ses arrières pattes, et ce fil vous rejoint, et par monts et par vous. Ô Mireille, à venir, Mireille au temps nouveau. Ainsi tâchais-je en vain, qui sait, de vous comprendre. Moi, le sang a coulé, et la prochaine cendre. Guillaume.
Jeudi 14 novembre 1918, Paris. Soleil jaune, mal de tête. Hiver blotti au feu de novembre qui écrase des cendres roses dans la cheminée noire. On est triste, je suis triste, et si pleine de lassitude et de dégoût que je n'ai pas le courage de sortir, de continuer à vivre. L'ennui de cette année est incomparable. Cependant, c'est la paix. La vie va reprendre. Belles utopies. Il n'y a plus de paix possible dans nos cœurs, ou du moins de paix intelligente. Nous sommes des masses abruties, brisées et sans avenir. C'est le coup de grâce de la France. Je ne connais pas un être capable de la relever par son travail, par son exemple. Et moi-même, je préfère l'humble solitude du feu et de ma chambre à toute tentative d'union ou de rencontre. On dirait que les liens furent coupés entre les êtres. Nous nous sommes tous perdus. Nous sommes tous morts à nous-mêmes. Et je ne vois pas de renaissance. Cette guerre nous laisse pantelants et désorganisés. J'ai les autres en horreur, même pas en indifférence. Et je suis pleine de morts comme une crypte pleine de souvenirs et de rêves. Mon pauvre Guillaume, comme on l'a laissé seul tout de même dans ce coin de cimetière parmi les herbes folles et les fleurs pourries dans la terre gluante comme de la poix. Quelle tristesse. Ce lourd cercueil, descendu là pour toujours. Quelle bêtise que la vie humaine, cet acheminement fait de souffrance, d'humiliation, d'espoir manqué, qu'avilit la déception éternelle vers quoi ? Un trou rectangulaire aux confins de la ville, en limite des quartiers les plus populeux. Si bien que nos amis couchés au Père-Lachaise voisinent avec la prison de la rue de la Roquette, avec les abattoirs. J'en ai le cœur empoisonné, noyé. Notre pauvre Guillaume dans cet affreux cimetière plein de petites maisons bourgeoises, comme des cabinets d'inscriptions idiotes, de noms ridicules que soulignent de vieilles perles. Nous l'avons laissé. Que pouvions-nous faire ? Nos larmes étaient bien peu en comparaison de notre désespoir. Que c'est bête. Que c'est bête. Je me sens diminuée de tous ces êtres en moins. À quoi bon se démener, se faire de la peine en s'accrochant à une humanité où il n'y a pas de joie ? Guillaume Apollinaire, Jean Leroy et tant d'autres. Autant continuer la guerre jusqu'à une extermination totale. On n'a pas assez tué puisqu'il en reste pour souffrir de l'absence. La saison, cependant, continue placidement ses rites, comme une bonne ménagère que rien ne saurait troubler. Peu à peu, elle a rangé toutes les feuilles et toutes les fleurs, elle a raccourci la lumière des jours et fraîchi la température. Nous n'attendons plus que l'hiver. Saison du confort, dit Rimbaud.
C'était Page arrachée au journal de Mireille Havet. Texte choisi et présenté par Béatrice Leca. Deuxième épisode. Cortège des morts. Avec, dans le rôle de Mireille Havet, Alicienne Schmitt. Leïla Ferraud. Extrait des deux volumes parus aux éditions Claire Pollan. Prise de son, montage, mixage. Serge Ristich, Olivier Leroux. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Jean Couturier.